l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 69. Soleil noir de la mélancolie. Chers amis, bonjour. Que le passé est passionnant, pas à pas, en suivant les impasses de la mémoire. Passe le temps, nous en avons pour longtemps. Il y a tant de belles choses, comme ce caillou, qu'il est tentant de tenter sans être morose, d'expliquer qu'il est la pierre de base de la plus vieille maison de Strasbourg, du passé. Ne faisons pas table rase, bâton, tambour, résonnez musette. Notre émission, vous l'avez bien connue sur Radio Judaïca Strasbourg, poursuit sa quête de plaisir à évoquer le temps perdu et le jeu du hasard. Alors, la semaine dernière, avec un professeur d'histoire, nous nous sommes intrigués mutuellement sur la fascination qu'exercent les ruines et sur l'enthousiasme que nous avions à suivre notre imagination. Un invité, une semaine sur deux, et la deuxième semaine, nous poursuivons cette étonnante paradoxale d'imaginer que le confinement et le Covid, c'était il y a très très longtemps. Mais c'était il y a 4 ans. C'était pas bien longtemps. Nous lisons le journal d'un reconfiné. C'était du 28 octobre au 24 novembre 2020, le deuxième confinement. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche 8 novembre 2020. Soleil noir de la mélancolie. Il y a des pages d'enthousiasme et d'autres de déprime. La presse salue Joe Biden au bout du suspense et pour parler de la Covid-19, il évoque une vague psychiatrique. Alors nous brassons du noir et n'avons pas le moral. Ce deuxième confinement provoque une grosse déprime et avec une avalanche de chiffres et d'études scientifiques de psychiatres et de neuropsychologues, on évoque notre vulnérabilité. Un encadré donne le pourcentage de suicides. Nous vivons dans le stress de la peur d'attraper le virus et dans l'isolement social créé par la crise sanitaire. Hier samedi, 5 malades barinois sont décédés du coronavirus et le journal tient les comptes. 1618 Alsaciens morts depuis le début. Et là, nous sommes donc le 8 novembre 2020. Nous n'avons plus de géranium au silencieux balcon de 20 heures, ni de gags parfois rigolos via Internet. Nous sortons plus souvent en dérogatoire, mais la mélancolie est aussi beaucoup plus grande. Quand Gérard de Nerval ne termine pas son récit poétique et mélancolique, Aurélia, pour se suicider et échapper à son confinement halluciné, il dit simplement que dans l'affection qu'il porte à ses semblables, il y a trop de passé pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'avenir. Je suis le ténébreux. Lundi 9 novembre 2020. Murmure des murs. Mon papa, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui et qui était un professeur adoré par ses élèves, nous faisait le soir de Noël une dictée, avec des pièges bien sûr. Alors tout est question de contexte, répétit-il. Il y a du basilic le long de la basilique, une amande à celui qui a grignoté les amandes du Kuglopf, je sers le cerf du cerf, alors là il adorait le Moyen-Âge, un chant dans le champ s'éleva, je fis signe au cygne de s'envoler, ne pas entamer le flan du flan. Alors moi c'était le flan à la pistache, mon préféré. Il est vraiment laid, c'est un leurre de l'imaginer à l'heure. La reine prit les rênes du renne. Ils sont 120. Alors ça, c'est ils sont 120 à Cana. Et je murmure derrière le mur, les murs sont mûrs. C'est aussi l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et alors moi, j'ai dans mon garage une Trabant échangée ce soir-là au Bornholmer Brücke. The Wall, alors pas celui de Pink Floyd, hein, mais de Trump, porte le chiffre 13767, un décret signé le 25 janvier 2017 pour protéger les Américains des hordes de Mexicains. Alors il s'avère parfois assez facile à percer et seuls les animaux sauvages font des détours pour passer par la ville la nuit. Que vont devenir ces briques de béton et d'acier le jour où le mur, celui de Trump, s'effondrera comme celui qui s'est effondré à Berlin un 9 novembre, aujourd'hui, 9 novembre 2020. La frontière entre les deux pays fait 3142 kilomètres et traverse des terrains privés dont les propriétaires rechignent à vivre à l'ombre d'un mur d'une hauteur variable entre 10,5 et 16,5 mètres, et même 90 pieds, c'est-à-dire 27 mètres, qui ont culminé dans un discours enflammé de son instigateur. Oui, alors Trump, qui n'avait pas trop les chiffres devant lui, avait prétendu que le mur pour interdire au virus mexicain d'envahir l'Amérique avait une hauteur de 27 mètres. Le mur des 200 000 morts du virus a été franchi aux États-Unis depuis déjà plusieurs semaines. Adrien et Antonin construisirent leur mur contre les barbares aux limites de l'Angleterre et de l'Écosse. L'enfance d'un chef est la dernière nouvelle du recueil de Jean-Paul Sartre, Le Mur. Elle se termine par l'évocation du triomphe du fascisme, le héros décide alors de se laisser pousser la moustache. Voilà, pendant le confinement, on se mettait à lire plein de livres avec des titres parfois peu évidents, mais qui pourtant nous rappelaient ce mur du virus. Voilà, l'enfance d'un chef, le mur de Sartre, le mur d'Adrien. Mardi 10 novembre 2020, il demande le chef. Nous ne sommes même plus blasés. La routine Covid régit nos journées. Si le mot n'avait un souvenir glorieux, nous dirions que nous sommes une armée des ombres, résistante. On baisse la tête et le masque dans les queues au Carrefour City, chez la marchande de journaux, sur le trottoir de la boulangerie, oui, oui, je le répète, la tarte au fromage de la rue Gaillère. Et pourtant, ce n'est pas pareil. Ce nouveau confinement, ça grouille de monde dans la rue. Il y a toujours des voitures et des PV partout. Et oui, pendant le second confinement, les dames et les messieurs de Striteo à Strasbourg continuaient à mettre des procès-verbales, des PV. Dingue, merci. Ça, c'est... Peut-être c'est la seule chose qu'on pourra vraiment reprocher à la ville, c'est d'avoir été aussi cynique. Et les sourires complices et apeurés ont disparu. Les informations disparates soulignent la confusion et nous côtoyons de plus en plus de malades et de morts dans notre entourage. Nous avons du mal à nous enthousiasmer à l'annonce d'un prochain vaccin. On se demande qui commande dans ce bazar. Il demande le chef, je me nomme, ils se rendent. Le combat cessera-t-il faute de combattants? Nous sommes prévenus, ce ne sera pas terminé à Noël. Alors les chefs que l'on n'attend pas se nomment. Par exemple, le patron du MEDEF affirme organiser les jauges de clients pour garder les boutiques ouvertes. C'est lui qui décide, ou bien les parlementaires sains de la légitimité démocratique et de la responsabilité déléguée. Est-ce Caïd ou le CID? Nous accepterions quelques morts, ou morts, alors morts M-A-U-R-E-S, hein, bien sûr, dans le CID, de plus pour sauver les cadeaux. Donc tout d'un coup, le patron du MEDEF qui nous donne des ordres. Voilà. Mais c'est sans cesse ignorant de nos propres besoins, nous demandons au ciel ce qu'il nous faut le moins. Alors ça, c'est deux Alexandrins de Boileau, dans l'art poétique. Voilà, ça me revient. Donc ce sont deux Alexandrins de Boileau qui sont à souffler au ministre de la Santé pour que l'on n'écoute plus sans ressentir de la pitié. Mais sans cesse ignorant de nos propres besoins, nous demandons au ciel ce qu'il nous faut le moins. Mercredi 11 novembre 2020. La solitude du coupable que personne ne soupçonne. Quand le prof fait une faute au tableau, c'est pour voir si nous sommes attentifs. Quand Emmanuel Macron fait deux fautes d'orthographe chez De Gaulle, c'est qu'il est ému. Et finalement, ça le rend sympathiquement nonchalant. Quand l'ambassadeur de France à Washington offre trois bouteilles d'eau de Javel à Donald Trump, il fait de la publicité pour les produits français. Alors là, ma source, c'est l'AFP, un blog que je vous conseille vivement. AFP étant les initiales de Ambroise Fiction Presse. Quant à Strasbourg, des financiers du Qatar ferment le printemps, le magasin fait la une des DNA et les propriétaires de l'Émirat offrent à chacun des 200 salariés licenciés un abonnement à Charlie Hebdo. Bon, c'est la même source, AFP. Hein, allez voir le blog. Bon, ça, c'est une blague, hein, bien sûr. Mais quand l'Obs de ce jour publie que John Lennon a été l'amant de David Bowie, on s'en fout de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Je m'excuse d'utiliser ce vocabulaire un petit peu, disons, sautillant. On se dit simplement que John Lennon et David Bowie, on se dit qu'on les aime tous les deux. Et quand l'empereur Mutsuo Ito ouvre le Japon à la modernité occidentale et invite le major général prussien Meckel à inculquer l'esprit de soumission et d'obéissance militaire à l'armée impériale, il offre 4 Jinko Biloba au Kaiser Guillaume Ier, et le Kaiser, il plante à Strasbourg ces 4 arbres. Alors ça, c'était en 1880, qui est l'année de la mort de Flaubert. Mais les arbres sont toujours là, et ils sont magnifiques, place de la République. Quand la maison de retraite à Guebwiller se nomme les érables, on pense aux feuilles mortes et aux 32 résidents positifs sur 83. 32 résidents positifs sur 83 aux érables à Guebwiller. Quand on veut échapper à son confinement et que l'on se sent condamné à la bassesse, on se dit que les seules limites sont celles où l'on se morfond. Quand on est seul face à la peur, on comprend que personne ne vous comprend. Quand on passe sa vie à trahir, tout ce qui éloigne l'angoisse semble juste et bon. Quand on vous prouve, et c'est dans les journaux ou à la radio, que le virus rend anxieux, que le virus vous rend anxieux, on fuit l'inquiétude morale, les scrupules et les remords, et l'on s'attache à être veule devant l'effort et les conflits moraux. Quand on fait le test et que l'on sent sa chute irrémédiable, fermée à tout retour, on tue l'espoir qui empoisonne la déchéance. Se complaire dans sa lâcheté, toujours Alain Berthier croisé à nouveau, pas par hasard, est coupable. Se complaire dans sa lâcheté. Jeudi 12 novembre 2020. On s'en fout pas. Voilà, entendu à la radio, on s'en fout pas. Il est 18h passé quand on sonne à la porte en plein Castex. Oui, je sais, me dit la voisine, mais cela ne m'intéresse plus. On en avait marre d'écouter le Premier ministre. Je jette un œil par la fenêtre. Il y a du monde dehors. Je laisse la radio allumée. Mais il faudra bien savoir quelles sont les nouvelles mesures. On s'en fout, on connaît la réponse, c'est toujours « ça dépend ». En tout cas, il ne faut pas oublier l'attestation. Ils font des contrôles en ville. La CTS fait la police. Bientôt, c'est les gendarmes qui vont conduire le tram. On n'est plus que des pions. Eh oui, la CTS contrôlait nos autorisations de sortie. Voilà, les flics partout. Bravo Strasbourg. Même à l'intérieur de l'appartement, on a l'impression d'être dehors. Et ce n'est pas seulement le télétravail qui a supprimé la notion de havre protecteur du domaine privé. Il y a cette ambiance de contrôle diffus et de pagaille incontrôlée et des petites phrases qui ne sont pas anodines comme « le masque, même chez soi ». Premier ministre qui dit cela. Et le Premier ministre commence par présenter ses condoléances. Puis c'est une litanie de chiffres sur un ton très assuré, professoral. Il serait irresponsable, on attend 18 minutes pour entendre l'attendu, et cet attendu c'est 15 jours de plus. Ah oui, nous sommes le 12 novembre 2020, et donc le Premier ministre nous dit 15 jours de plus. Puis les ministres défilent en se défilant, comme à la fête de fin d'année au lycée pendant la distribution des prix. Alors, dans l'ordre, le ministre de la Santé, puis l'Éducation, puis l'Emploi, puis l'Économie. Alors, rien pour la culture, même pas un accessite. On s'en fout. Et puis, encore ce pitoyable et maladroit aveu, l'ennemi, ce n'est pas l'État, c'est le virus. Comment avions-nous pu entendre cela sans broncher? Bon, nous étions confinés dans notre appartement, qu'un Premier ministre nous dise cela. Elles n'ont même pas la niaque pour l'ouvrir, ni la démangeaison de la ramener, ni l'espoir de la solidarité applaudissante du mois de mars. Elles n'ont pas la niaque, les infirmières renforts réanimatrices de la Covid, à qui on avait promis une prime de 1500 euros et qui ne l'ont pas perçue. Et elles se sont trouvées un nom, ces infirmières, les déprimes, avec un tiret entre les deux, les déprimes. Et elles annoncent, voilà, un reportage dans un journal, on s'en fout du fric, mais pas du manque de reconnaissance, l'impression d'être des Kleenex, la déprime. Elles ne rempliront peut-être pas malgré la violence de la deuxième vague. C'est pas vrai, mais on va dire qu'on s'en fout. Et en vrai, les infirmières, elles sont retournées à l'hôpital. Très émouvant. Vendredi 13 novembre 2020. Mon cœur de silex, comment te dire adieu en ce vendredi 13, faux jour de chance? Sous aucun prétexte et interdiction de passer du temps en zone Covid à l'hôpital, pour lui tenir la main. Des funérailles avec personne au cimetière. La mort avait peur de la mort, de la douleur. Il a laissé sa trace, le mort qui avait peur de la mort. C'est la trace d'un être fragile et faible. De lui, on ne se souvient que de choses banales et absurdes. Avant de mourir, il a encore exprimé sa haine pour ce qu'il va quitter, sa famille, son travail, la société, son insipide vie secrète. Eh oui, le mort avait peur de la mort et de la douleur. De quoi nous souvenons-nous de ce bonhomme qui est mort comme ça, haïssant tout le monde? Pourtant, il aimerait bien s'accrocher. La Covid, certains s'en sortent. On lui dit qu'on va l'endormir pour le mettre en réanimation. Il aurait bien aimé écrire quelques lettres pour dire adieu. Samedi 14 novembre 2020. Des loups dans la steppe. Je vais vous dire, tout le monde triche. Alors, les détenteurs de multiples attestations, une par poche, les malins décrocheurs de primes, les dossiers simplifiés, les gros commerçants qui cartonnent avec le pick and collect et tous ceux qui sont tenus pour des paragons de vertu. Eh oui, je vais vous le dire, tout le monde triche. Voilà, un témoignage entendu à la radio. Mais il y a aussi tous ceux qui plongent dans la pauvreté. Et pour eux, on a créé une drôle d'expression, le « reste à vivre ». 4 euros par jour et par personne quand tout le reste est payé. Il me reste à vivre 4 euros. Pendant ce reconfinement, à la radio, nous avions des témoignages de gens qui n'étaient pas téléguidés par un thème. On leur donnait la parole et ils sortaient des choses comme cela qui étaient tellement fortes, tellement émouvantes. Mon reste à vivre. Muni de notre attestation de déplacement dérogatoire, nous croisons beaucoup de gens. Comment reconnaître les tricheurs ou les pauvres? Ont-ils chacune différente une nuance dans leur attitude, une hardiesse dans le regard? Bien sûr, ils ne sont pas dotés d'un signe qui indiquerait leur prépotence et qui résumerait l'inavouable fascination que nous éprouvons, nous, êtres ordinaires, pour ceux qui, hors normes, se fondent dans la masse. La pauvreté suscite la compassion et la solidarité exprimée par la société est un appel sans discussion à notre naturelle générosité. Et les tricheurs? Balançons l'idée de la délation. D'une certaine façon, leur différence inspire la crainte parce qu'ils ont inventé une histoire, comme s'ils s'identifiaient à Caïn, le fort qui a tué le faible. Nous sommes tous égaux face aux injonctions du gouvernement et aux règles du confinement. Mais lorsqu'un fort a pris le pas sur un faible et considère avoir fait un acte héroïque, nous, les faibles, sommes en pleine frayeur. Nous sommes pleins de frayeur. Et pourquoi pas eux? Parce qu'ils nous considèrent comme des lâches, des imbéciles. L'attestation d'une heure, ils en ont 3 en poche. Comme ça, en cas de contrôle, il suffit de sortir la bonne et de dire que, voilà. Comment admettre que Caïn est un être noble? Et nous, les Abel, on se sacrifierait pour lui? Nous ne vivons pas dans un monde lumineux et pur. La Covid rôde et la mort est au coin de la rue. Tricheurs ou respectueux, nous croisons, masqués certes, mais nous formons ensemble le peuple du deuxième confinement. Seuls nos yeux, aux étranges éclats au-dessus du tissu, expriment la sérénité, la crainte, ou, peu honorable, une légère exaspération. Quelles qu'en soient les mauvaises raisons, trahir le décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, alors formidable hein, la bureaucratie, pour dire qu'on n'a pas le droit de sortir, à quelque chose de jubilatoire que nous ne pouvons partager. N'empêche que nos histoires ont un goût de non-sens, de folie, de confusion et de rêve, comme la vie de tout homme qui ne veut plus se mentir. Dans la steppe, le loup. Tel n'est humain, écrivait Hermann Hesse, pour qui la morale pouvait être remplacée par l'esthétique, tel n'est humain que dans sa partie supérieure et poisson en bas. Tous, nous sortons du même sein. Nous pouvons nous comprendre les uns les autres, mais personne n'est expliqué que par soi-même. Le loup dans la steppe. Dimanche 15 novembre 2020. L'imagination en garde à vue. Alors l'imagination au pouvoir, c'est notre nostalgie mélancolique, mais tellement fascinée pour mai 68. Mais l'imagination, c'est parfois l'asthénie du désespoir. On imagine que tout est comme avant à plus de 300 dans un loft de 300 mètres carrés pour faire la fête, jusqu'à ce que la police débarque et mette les organisateurs en garde à vue. Alors ça, c'était quand même assez fou, en plein confinement, 300 personnes dans 300 mètres carrés à faire la fête. On imagine pouvoir se rencontrer sans masque, danser, draguer, se moquer de la société. On imagine que l'on ne va pas transmettre le virus aux autres en rentrant chez soi. Quelle tristesse! Alors que l'imagination, c'est une puissance de création, c'est la puissance reine, reconfinée. Sommes-nous complètement désenchantés? Ah, l'imagination made in mai 68, la jeunesse qui s'est enfermée hier à 2h du matin pour une soirée clandestine, imagine être créative en méprisant les règles sanitaires. Baignée dans les vagues monotones des smartphones, leur adolescence n'a pas eu le temps d'avoir de l'imagination, coincée dans le pragmatisme des lycées qui préparent à un métier. Les professeurs d'utopie ne sont plus au rendez-vous. Quand, dans un souci de simple cohérence, un prof partage les valeurs de l'histoire et de la République, aujourd'hui il risque sa tête. Parler de l'imagination, c'est chercher à cerner une faculté ambivalente, nécessaire et dangereuse à la fois. C'est savoir suspendre son acquiescement à ce qui ne nous convainc pas entièrement. Les consignes de reconfinement dans la pandémie Covid-19 ne sont pas prépondérantes. À l'heure de toutes les théories de complot, hold-up et compagnie, la recherche de la vérité est un argument, réfléchi ou non. Mais il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un pas ferme. Choisir de braver les consignes sanitaires, une question de morale. Alors, cette célèbre formule de Malebranche, la morale démontrée et expliquée par principe est la consigne de l'homme, ce qu'est la connaissance des lignes courbes à celle des lignes droites. Bon, Brassens a raconté cela dans ses chansons de façon un petit peu plus facile à comprendre. Je relis la formule de Malebranche. La morale démontrée et expliquée par principe est à la connaissance de l'homme, ce qu'est la connaissance des lignes courbes à celle des lignes droites. Et cela ne rejette pas le pouvoir de l'imagination. L'imagination joue un rôle important dans la constitution de la pensée rationnelle, explique le philosophe. Elle permet de distinguer l'obscur ou le faux, et elle nous aide à être plus attentifs. Alors comment comprendre que l'on prenne tant de risques de contagion? Mais quelle idée! L'imagination, la mémoire et les habitudes sont liées par les règles de la répétition dont dépend un principe fondamental, celui de l'imitation. Pauvre dévoiement d'une imagination. Vouloir être différent, comme les autres. C'était l'épisode numéro 69 de « Vous l'avez bien connu, Soleil noir de la mélancolie », l'émission que fascine le temps perdu et le jeu du hasard. Alors, petite citation de Gérard de Nerval, « Soleil noir de la mélancolie ». Aujourd'hui, nous avons évoqué un temps si lointain, celui du reconfinement, avec le livre « Le chat du 28 veut pas mourir », le stress de la peur d'attraper le virus et l'isolement social créé par la crise sanitaire, aux éditions Bourblanc à Strasbourg. La semaine prochaine, avec notre invité, nous explorerons les archives des journaux pour en tirer de belles fictions et des enquêtes rhénanes. Vous l'avez bien connu, tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli, et mon nom est Ambroise Perrin.